Retrouvez vite La France Bouge avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La France Bouge. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des patronnes, des patrons qui se retroussent les manches en ce moment dans ce monde en plein changement. Et partout en France, des acteurs de la société qui imaginent déjà le monde de demain. Ici c'est simple, on trouve des solutions et elles sont françaises. Ensemble on en parle avec Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous. Émission spéciale emploi des jeunes cadres. Tiens, comment se passent les recrutements? Quels sont les métiers qui embauchent? À quel salaire? Comment s'intégrer en cette période de pandémie? On en parle jusqu'à 14h avec Gilles Gâteau, c'est le directeur général de l'Association pour l'emploi des cadres.
À la une, faire ses études supérieures. Quand on vit dans des villes reculées, sans accès aux études supérieures, eh bien c'est possible aujourd'hui grâce au campus connecté. Nous serons à Privas, en Ardèche.
Et depuis le début de la pandémie, on manque parfois de personnel, notamment dans le service à la personne, en Occitanie. Une formation accélérée dans un groupe de maisons de retraite s'est justement accélérée pendant la crise.
Chaque jour, les trophées Europe 1, La France Bouge. Un projet est défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, un cabas, un étudiant, une plateforme solidaire qui met en relation les étudiants en difficulté, des familles prêtes à les aider. Le pitch va-t-il vous convaincre, nous convaincre? Réponse, 13h45.
Si vous êtes des habitués de La France Bouge, vous le savez, chaque mercredi et chaque vendredi, on fait une séquence Demain un emploi. Des entreprises qui viennent annoncer tous les postes qu'ils ont ou qu'elles ont à pourvoir. Et bien justement, aujourd'hui, en ce premier mercredi du mois, un mois et demi après le début de notre opération, on va faire le point sur tous ces emplois. Et vous allez voir, plus de 20 000 emplois ont comme ça été annoncés sur l'antenne d'Europe 1.
Et oui, c'est ça La France Bouge. Allez, restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France Bouge sur Europe 1.
Depuis le 20 janvier, la France Bouge soutient les jeunes en difficulté. On les aide, on vous aide à trouver un emploi chaque premier mercredi du mois. Maintenant, on va faire le point et aujourd'hui, on va en parler lors de cette émission spéciale qui leur est consacrée avec notre témoin du jour.
Bonjour Gilles Gâteau.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de l'APEC. L'APEC, pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est l'Association pour l'emploi des cadres. Gilles Gâteau, comment ça se passe en ce début d'année 2021 concernant les jeunes cadres?
Ben merci de votre invitation et puis bravo pour votre émission.
Ben, je
pense que c'est un des sujets les plus importants aujourd'hui que notre jeunesse vit un moment difficile, de montrer qu'ils ne sont pas seuls, que beaucoup sont là pour soutenir cette jeunesse, pour les aider, pour les accompagner.
Alors de façon concrète, comment ça se passe justement pour eux?
Alors, l'APEC fait partie de ceux qui sont mobilisés pour accompagner ces jeunes. Pourquoi? Parce que, d'abord, il y a une idée fausse qu'il faut tout de suite écarter. C'est celle selon laquelle les jeunes diplômés ne seraient pas frappés par la crise. Ils sont frappés par la crise autant que les autres. À la fois la crise sanitaire, celle-là, elle nous frappe tous, hein, et à la fois la crise économique et notamment la question de l'emploi. Alors, quand on est diplômé, on est mieux armé, ça c'est évident, que ceux qui n'ont pas de diplôme, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas plus difficile en ce moment.
C'est ça, ça ne suffit pas aujourd'hui d'être diplômé. On embauche moins de cadres, là, depuis plusieurs mois.
Alors, il y a moins d'embauches de cadres, et du coup, ça frappe d'abord les jeunes diplômés. On a dans notre pays mis en place beaucoup d'amortisseurs dans cette crise et heureusement l'activité
aides,
partielle, de longue durée, les aides aux entreprises, ça protège bien ceux qui ont déjà un emploi. Mais pour ceux qui veulent entrer dans l'entreprise, ben, il faut des embauches et là, c'est sûr qu'elles ont diminué. Pour les jeunes diplômés,
elles ont diminué de combien?
Alors, sur l'année 2020, c'est 42% d'offres accessibles aux débutants, comme on dit, c'est-à-dire accessibles aux jeunes sans expérience, de moins par rapport à l'année précédente. Ça s'améliore un peu sur le début de l'année 2021. On est à moins 35% sur les deux premiers mois de l'année 2021.
Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de mobilité de la part des cadres? Quand on a un emploi en ce moment, on ne fait pas le malin, on y reste et puis on attend de voir comment ça va se passer. Et peut-être que c'est le même sentiment du côté des entreprises, une sorte d'attentisme pour voir à quelle sauce elles vont être mangées?
Exactement. Je pense que l'incertitude aujourd'hui crée une retenue sur l'embauche dans beaucoup d'entreprises. Alors, il y a des cas, on le comprend bien, hein, aujourd'hui, un grand restaurant fermé, c'est plus compliqué pour décider d'embaucher. Parfois, dans des entreprises, il pourrait y avoir un peu plus d'anticipation et de ce que sera la reprise et du moment où elles auront besoin de ces compétences des jeunes. Donc c'est sûr que l'incertitude a cet effet de ralentissement sur les embauches.
Mais cette incertitude, elle est présente dans les entreprises, mais elle est aussi présente chez les jeunes. Les entreprises n'ont-elles pas un rôle à jouer pour rassurer ces jeunes et justement profiter de cette situation pour les faire venir ?
Absolument, c'est leur intérêt en tant qu'entreprise, pas seulement une obligation, on va dire, sociétale hein, ou morale, mais aussi...
C'est comme une opportunité.
Absolument, et quand la reprise sera là, on aura besoin de ces compétences, et en particulier, on aura besoin d'avoir formé ces jeunes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que en matière d'alternance, hein, de formation des jeunes en alternance, on n'a pas de baisse pour le coup des embauches en apprentissage et sur les contrats d'alternance. Donc ça, c'est un bon signe.
Au contraire, même, puisque je crois qu'on a fait la meilleure rentrée de l'histoire en septembre pour les contrats d'alternance. Mais justement, est-ce que pour une fois dans la France bouche, si on regarde le verre à moitié plein, est-ce que les entreprises ne se disent pas en ce moment, je vais prendre un apprenti, ça me coûte zéro hein, grâce aux mesures gouvernementales, plutôt que d'embaucher en CDI un jeune diplômé, et on verra quand ça ira mieux.
Sans doute que peut-être certains ont ce raisonnement. C'est déjà mieux d'embaucher un jeune en alternance que de ne pas embaucher du tout. Après, je pense que beaucoup de ces jeunes diplômés sont une énergie dont les entreprises ont besoin aussi dans ce moment difficile pour elles, qu'elles traversent. Il y a des choses que les jeunes diplômés ne savent pas forcément, je le dis à votre antenne. La moitié des embauches de jeunes diplômés, donc licence, master, doctorat, se fait dans des entreprises de moins de 250 salariés. Quand on est jeune diplômé, qu'on arrive sur le marché du travail, on pense aux grandes et on envoie son CV, on fait des candidatures spontanées chez L'Oréal, chez EDF, chez etc., etc. Là, le marché, la moitié des embauches, c'est des plus petites entreprises. Et celles-là, les jeunes ne les connaissent pas forcément.
Donc, on embauche moins de cadres là, depuis ces derniers mois, davantage d'apprentissage. Dans quels sont les secteurs qui embauchent, pour être de plus en plus concret ?
Alors, il y a bien sûr des secteurs qui sont très sinistrés aujourd'hui. Vous voulez travailler dans l'événementiel,
oui, mais
vous voulez travailler dans la restauration, évidemment c'est très sinistré.
On sait qu'il n'y en a pas là.
Mais j'ai regardé avant de venir ce matin sur APEC.fr, qui est un peu le premier job board, on va dire, des emplois cadres. Ce matin, pour des offres accessibles aux débutants, c'est-à-dire des entreprises qui ne demandent pas une expérience préalable, 42 392 offres en ligne aujourd'hui. Et j'ai regardé effectivement par type de secteur. Alors, il y en a 11 000 dans des métiers du commercial et du marketing. Il y en a 5 700 dans les métiers d'études, de recherche, de développement. Il y en a 6 500 dans les métiers de la finance. Il y en a 8 000 dans les métiers de l'informatique. Mais, par exemple, il y en a quand même 600 dans les métiers de la communication. Malgré ce contexte que l'on connaît.
Pour qu'on ait une idée, 43 000 offres d'emploi disponibles en ce moment même sur le site de l'APEC, c'est beaucoup par rapport à d'habitude ?
C'est 30% de moins que d'habitude, mais ça veut dire qu'il y a quand même 70% des embauches qui se faisaient précédemment, qui continuent de se faire, malgré ce contexte d'incertitude et malgré la crise. Donc, c'est votre histoire de verre à moitié plein,
donc,
à moitié vide.
Donc, il y a 70% d'offres.
Il y a 70% des offres qui sont là et un certain nombre de ces offres sont difficiles à satisfaire. Les employeurs ne trouvent pas toujours les compétences qu'ils cherchent. Et là aussi, il y a des opportunités. C'est important à dire aux jeunes, et aux cadres d'ailleurs qui sont en recherche d'emploi, parce que, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, il y a moins de mobilité des cadres qui ont un emploi. Donc il y a moins de compétition d'une certaine façon.
On va s'arrêter un instant, on va en parler de cette raison pour laquelle on n'arrive pas forcément à trouver ces jeunes, si on n'arrive pas à les trouver pour alors qu'il y a des postes à pourvoir. On va en parler dans un instant, Julie Gâteau, vous êtes le directeur général de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et on aide nos jeunes une fois de plus aujourd'hui dans La France bouge depuis le début de l'année. Chaque mois, émission spéciale pour vous aider, là, si vous êtes en train de nous écouter à la maison ou en voiture, à trouver des stages, à trouver un emploi. Et on en parle avec notre grand témoin du jour, Gilles Gâteau, qui est le directeur général de l'Association pour l'emploi des cadres.
Et une fois le bac en poche, comment poursuivre ses études quand on vit, par exemple, dans une ville loin, éloignée de toute école ou de toute université, surtout en ce moment? Par exemple, le département de l'Ardèche a constaté qu'à peine plus de 50% de ses bacheliers s'orientaient vers des études supérieures, ce qui est un chiffre qui est bien en dessous de la moyenne nationale, qui est estimée à 62%. Alors, en ces temps de confinement, de couvre-feu, trouver un job étudiant, trouver un emploi tout court pour payer son logement ou vivre loin des parents devient encore plus compliqué. Mais nous, à la France Bouche, on a peut-être trouvé une solution.
Mais toujours on en trouve.
Bonjour Alexis Payou.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général adjoint de Citoyenneté et Transition des territoires du département de l'Ardèche. En 2019, vous avez mis en place à Privas un campus connecté. Ça concerne deux campus, hein, Privas et Aubenas, pour une petite dizaine d'étudiants sur chaque site. Vous, on peut dire que vous luttez contre les inégalités d'accès aux études et c'est encore plus important en ce moment, compte tenu du contexte.
Oui, effectivement, vous l'avez rappelé, en Ardèche, le président Laurent Huguetto, à l'époque avec la rectrice de l'Académie de Grenoble, avait pu constater que malgré un taux de réussite au baccalauréat plus important qu'en moyenne régionale ou nationale, on avait moins d'Ardéchois qui accédaient aux études supérieures. Mmh. En lien avec ce constat-là, en lien avec une réflexion plus générale sur l'Ardèche en transition et avec ce sujet de permettre à des publics empêchés d'accéder aux études supérieures, on a créé trois campus connectés. Deux sont déployés, l'un à Privas, l'autre à Aubenas. Ils accueillent aujourd'hui une dizaine d'étudiants chacun. Il y en aura un à la prochaine rentrée scolaire.
C'est peu 10 étudiants.
En Ardèche. Pour l'instant, c'est 10 étudiants.
Pourquoi
il y a une capacité
10
d'accueil qui est de 20. Donc on a prévu plus d'accueil que pour l'instant ce que les campus accueillent effectivement. On est sur un lancement de la démarche et on est aussi sur une
pour
démarche
qu'on comprenne
qui n'a
bien
pas vocation.
Comment ça fonctionne ? Si moi je suis étudiant, que j'aurais envie d'y bénéficier, comment ça fonctionne ?
Très concrètement, c'est un tiers-lieu donc équipé avec des outils numériques qui permettent de suivre des formations qui sont des formations à distance. Et en plus de cet accès numérique, vous avez l'accompagnement d'un coach. Mmh. Le coach, il est en charge de la motivation des élèves, leur donner des méthodes de travail, pas de soutien sur le fond des formations suivies qui sont très variées, l'aide à la recherche de stage, l'aide à la recherche d'emploi, etc. Ce qui nous permet d'avoir des taux de réussite assez importants, 88% la première année sur Privas.
Ouais, parce que pour qu'on comprenne bien, l'idée c'est quand même de sortir de chez soi, d'aller, comme vous le dites, dans un tiers-lieu où on peut se regrouper, on peut partager un peu comme sur un vrai campus et bénéficier du coup de formation plus proche de chez soi. C'est vraiment ça l'idée, hein.
C'est vraiment ça l'idée, sans substituer à l'idée que les Ardéchois ont tout à fait vocation à aller aussi étudier dans des universités en présentiel. On est bien sur des publics qui sont empêchés, pour différentes raisons, ou de santé, ou financières, ou autres, d'accéder à ces études en présentiel. Alors, on n'a pas vocation à substituer.
Ça a été mis en place en 2019, entre-temps la crise est passée par là. Qu'est-ce qui a changé dans la demande ? Que recherchent les étudiants aujourd'hui en Ardèche entre 2019 et aujourd'hui ?
Alors, en période de crise, on a accueilli 5 étudiants supplémentaires dans les campus, au-delà des 2 dizaines que vous mentionniez, qui recherchaient un accompagnement méthodologique, un soutien, l'esprit de promotion que vous évoquiez, qu'on trouve dans ces campus. Ça leur a permis d'avoir le soutien, plutôt que de rester confiné chez soi. Pour nos étudiants qui étaient dans les campus, le confinement, il y a une fermeture des campus, donc premier confinement. La situation actuelle, malgré l'absence de cours en université, on a quand même le même service rendu pour nos étudiants des campus connectés.
Vous le disiez, vous avez une vingtaine d'étudiants aujourd'hui, vous allez ouvrir un troisième campus à la rentrée, mais on pourrait dire que c'est des centaines de jeunes qui pourraient quand même être comme ça accueillis. Est-ce que là, vous testez, ça marche de ce que vous dites ? Est-ce que vous pourriez aller beaucoup plus loin ?
Après les trois campus, il est déjà prévu d'avoir des partenariats avec d'autres tiers-lieux pour faire rayonner sur le territoire encore plus largement les campus connectés avec pour l'instant toujours un coach. Il faudra voir quelle est la demande in fine. Si déjà on a 60 étudiants, c'est 60 étudiants qui n'auraient pas eu accès aux études qui là y auront accès.
Gilles Gâteau, vous êtes le directeur général de la PEC, on vient de l'entendre, hein, là, des campus connectés, on aurait parlé de ça il y a 10 ans, on s'aurait dit mais c'est quoi exactement cette façon de former nos étudiants, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez de plus en plus ? Est-ce que les étudiants le demandent aussi de pouvoir rester chez eux, pas forcément aller dans des grandes villes universitaires ou dans des villes où il y a des formations ?
Alors la crise, elle accélère les choses de façon phénoménale par rapport à cette dimension.
On gagne des années, là.
De services à distance, d'accès à la culture à distance, à l'éducation. Donc ça, en soi, c'est une bonne chose. Après, il y a un mot que votre invité a prononcé qui est très important, c'est celui d'accompagnement, de coaching de ces jeunes. Il ne suffit pas de donner des outils ou une plateforme en ligne. Il faut derrière accompagner ces jeunes. Et il faut que ces jeunes n'hésitent pas à solliciter du soutien, ne pas rester isolé, ne pas
Pourquoi
rester
les accompagner ? Il leur manque quoi ? Parce que quand on se dit, ils ont une formation, donc tout va bien. C'est quoi ce petit supplément, ce plus qui fait qu'en les accompagnant, ça ira mieux ?
Parce qu'on pense qu'un jeune qui a terminé ses études, et surtout s'il a un diplôme, voilà, qu'il a bien préparé à sa vie professionnelle, il est autonome. Sauf que chercher un job, c'est une activité pour laquelle on n'est pas forcément préparé, formé à l'université. Et donc, être autonome dans une recherche d'emploi en ayant les bons outils, les bons réflexes, en sachant se préparer, les questions, ça s'apprend.
Mais
et pour ça, il faut se faire aider.
Et encore plus en ce moment, on avait le patron de Mano Mano, qui est le leader européen du bricolage en ligne, à cette même place vendredi. Il nous dit « J'ai recruté plus de 200 personnes par Zoom, j'en ai pas vu un seul. Il faut être sacrément polyvalent et sacrément préparé à commencer un job tout seul à la maison, ce qui est une réalité, et à faire son entretien d'embauche également de cette façon-là. » C'est très différent, ça doit être dur pour les jeunes diplômés en ce moment.
C'est dur pour le jeune, c'est pas facile pour le DRH ou pour le manager aussi, hein, qui intègre un salarié dans son équipe sans l'avoir jamais rencontré physiquement. Donc nous, à l'APEC, par exemple, on fait des ateliers, des web-ateliers en direction des entreprises pour les aider à intégrer des collaborateurs à distance en période de confinement ou en période de télétravail imposé. Voilà, typiquement le genre de choses qu'on peut apprendre. Et aujourd'hui, on a, hélas, une grande expérience dans ce domaine.
Alexis Payot, avant de nous quitter, pour celui ou celle qui a envie d'aller sur ce campus connecté en Ardèche, il fait comment ?
Alors, il y a à distinguer l'inscription à la formation universitaire, donc Parcoursup ou les autres mécanismes d'inscription, et puis l'inscription au campus connecté une fois qu'on a sa formation en ligne. Et pour les campus connectés, il faut aller sur le site du département de l'Ardèche, ardèche.fr/ADEC, et vous avez l'ensemble des éléments qui sont présentés.
Merci Alexis Payou, vous êtes le directeur général adjoint citoyenneté transition des territoires du département de l'Ardèche. Vous nous parliez des campus connectés.
Et Gilles Gâteau, le directeur général de l'association pour l'emploi des cadres, vous restez avec nous jusqu'à 14h.
La France bouge continue avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et comme chaque jour avec Elisabeth, on est ravis de vous accueillir en direct du lundi au vendredi de 13h à 14h sur Europe 1 pour La France bouge. Aujourd'hui, émission spéciale de soutien aux jeunes. Et sachez que le gouvernement évoque un retour à une vie plus normal, peut-être, le peut-être est très important, mais peut-être d'ici la mi-avril, c'est en tout cas ce que nous dit Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, et on parle de tout cela avec Gilles Gâteau, le directeur général de l'Association pour l'emploi des cadres.
Et cette crise nous montre qu'il y a des manques dans certains emplois, dans certains secteurs, notamment dans le milieu des soignants, dans les services d'aide à la personne. Et là aussi, la France bouge. On a trouvé des Français qui se sont retroussés les manches pour trouver des solutions. Comme vous, Martine Danès, bonjour.
Bonjour.
Alors, je précise pour nos auditeurs, il y a eu un petit décalage parce que Martine Danès est en direct depuis... vous êtes en Occitanie, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Je suis aujourd'hui à côté de Castres.
Vous êtes la déléguée régionale du CINIRPA, la directrice régionale dans un groupe de maisons de retraite médicalisées. Et vous proposez une formation spécialisée en gérontologie. C'est une formation qui, certes, existe depuis 4 ans, mais qui s'est fortement accélérée depuis le début de la crise.
Alors effectivement, vous savez, les résidences médicalisées se sont professionnalisées, donc on a eu besoin de recruter beaucoup plus d'aides-soignantes et on s'est retrouvé face à une pénurie d'aides-soignantes sur le marché du travail. Mmh. Donc on a eu l'idée avec l'équipe du CINERPA Occitanie de proposer une formation spécialisée en gériatrie, plus courte, mais qui est une première marche pour accéder au métier du soin.
Mmh. Le CINERPA,
et donc
c'est
on
le...
l'a fait plus...
Pardonnez-moi, je vous ai coupé avec le décalage à chaque fois. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Pardonnez-moi, le CINERPA, qui est le syndicat des maisons de retraite. Et comme vous le dites, hein, c'est une première marche avant le métier d'aide-soignante, puisque la demande est très importante en ce moment.
C'est tout à fait ça. Donc, on voulait effectivement réfléchir à un parcours de formation qui permettait de répondre à la demande des maisons de retraite de pouvoir recruter des personnes formées. Parce que aujourd'hui, certains postes sont occupés par des personnes qui ne sont pas formées. Et le CINERPA Occitanie a dit non, on refuse ça. On veut que tous nos professionnels puissent avoir une formation adéquate. Et donc, on est allé rencontrer deux instituts de formation, l'Institut de formation de la Croix-Rouge et le GRETA, qui ont répondu présent et qui nous ont construit un programme de formation adapté avec un cahier des charges qu'on leur a transmis.
Alors, vous le dites, un programme de formation adapté, là encore, c'est ce que nous disait Gilles Gâteau tout à l'heure, le directeur général de l'APEC, vous avez accéléré quelque chose que vous aurez peut-être mis beaucoup plus longtemps pour mettre tout ça en place, pour mettre en place cette formation si rapide, pour aider les infirmières finalement, et les infirmiers.
Oui, pour aider les équipes, effectivement, pour avoir un personnel diplômé auprès de la personne âgée. Et pour avoir des personnes compétentes qui ont les bons réflexes auprès de la personne âgée. On ne peut pas s'improviser un professionnel auprès de la personne âgée sans formation. Et c'est pour ça que nous avons développé cette formation avec deux organismes, que sont la Croix-Rouge et le Greta, qui ont une véritable expertise dans la formation des adultes ou des jeunes adultes, mais aussi les formations sanitaires et sociales.
Vous avez formé combien de personnes depuis un an ? Et quels sont les profils ?
Alors en fait, si vous voulez, Pôle emploi a fait un énorme travail à nos côtés. C'était notre autre partenaire très important sur la région Occitanie. Ils ont détecté les profils qui pouvaient être pertinents pour accéder à ces métiers. Donc nous avons, nous employeurs, testé les candidats pendant 15 jours en première mise en situation professionnelle pour valider que le candidat avait le savoir-être nécessaire pour devenir un bon soignant, mais qu'en même temps, le candidat avait envie de travailler dans notre secteur d'activité parce que c'est pas toujours évident de travailler auprès de la personne âgée.
Mais qui sont les candidats ? Parce que j'imagine qu'il doit avoir peut-être des reconversions. C'est pas forcément un public habituel.
C'est un public très varié. Donc ce sont des publics qui, effectivement, c'est monsieur tout le monde, c'était des personnes qui travaillaient dans des fast-foods, c'était des personnes qui avaient envie de trouver du sens, voilà, c'était des personnes qui avaient envie de trouver du sens et un métier qui redonne du sens à ce qu'ils avaient envie de faire. Et c'est vrai qu'en maison de retraite, nous, on a des projets professionnels, on peut aussi évoluer et puis travailler auprès de la personne âgée. Aujourd'hui, c'est très valorisant pour ces candidats-là qui ont envie de retrouver un peu de sens dans leur métier.
Martine Danès, avant de nous quitter, c'est une formation qui dure combien de temps ? 15 jours, vous avez dit ?
Non, c'est une formation qui est plus longue parce que nous avons voulu l'adapter. C'est une formation qui dure 3 mois. Avec une période de stage et une période de cours, avec 295 heures de cours, parce que nous avions besoin de ce bagage théorique essentiel. Et aujourd'hui, on a formé 150 personnes, et sur les 150 personnes, 87% sont en emploi et ont trouvé du travail.
87% des personnes qui ont trouvé un emploi grâce à vous. Merci Martine Danès, vous êtes la directrice régionale d'un groupe de maisons de retraite médicalisées en Occitanie. Merci à vous.
Et Gilles Gâteau, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, et vous êtes notre grand témoin. C'est très intéressant ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire le fait qu'on est peut-être en reconversion, parfois en cette période de crise, en reconversion accélérée. Est-ce qu'il faut peut-être aussi aujourd'hui, même pour les jeunes cadres, sortir de sa formation, s'adapter et aller peut-être vers un emploi auquel on n'aurait pas pensé, mais dans lequel on a les besoins que vous évoquiez tout à l'heure, les 43 000 offres d'emploi dont vous parliez tout à l'heure ?
Alors, c'est fondamental d'être dans cette posture de s'adapter. On parlait tout à l'heure, ne pas hésiter à se faire accompagner, à se faire aider, à aller vers ceux qui peuvent vous aider. Mais il y a aussi s'adapter. Nous, on le voit tous les jours dans les ateliers pour les jeunes diplômés qu'on appelle Objectif Premier Emploi. On a un objectif de 50 000 jeunes accompagnés d'ici l'été. On en est à 30 000. On en voit tous les jours de ces jeunes qui, à un moment donné, ont évidemment poursuivi des études avec un rêve, avec une ambition, une vision, et puis qui se cognent là contre une réalité où il n'y a pas forcément aujourd'hui l'emploi qui leur convient. Et là, savoir s'adapter, c'est savoir faire le pas de côté qui peut ouvrir à une carrière très différente ou qui peut être juste un pas de côté. Aujourd'hui, on n'est plus dans un monde où, selon le moment et l'entreprise et le métier dans lequel vous allez rentrer sur le marché du travail, va déterminer toute votre carrière. Ensuite, on peut bouger. On voit aujourd'hui les moins de 35 ans. Il y en a 1 sur 2 dans notre dernière enquête APEC sur la mobilité qui envisage de changer de poste dans les 12 mois qui viennent. Donc, on peut entrer dans une entreprise, on peut entrer sur un CDD plutôt que sur un CDI, et ensuite rebondir sur autre chose. Donc, cette adaptation, oui, elle est bien sûr une des conditions de succès pour ces jeunes.
Est-ce que les jeunes candidats qui sont embauchés en ce moment sont recrutés moins cher?
Ça, c'est la question.
Alors, on n'a pas encore, nous, notre enquête annuelle. On l'a fait
dans
quelques semaines. Mais les signaux que nous voyons montrent que, oui, il y aura bien sûr un ajustement des salaires. Plus exactement, on a connu ces dernières années une certaine inflation du salaire d'embauche des jeunes. Par exemple, en 2019... pour les jeunes de niveau master, le salaire d'embauche avait augmenté de 6,5% en un an en 2019. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une compétition.
Mais Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH, nous disait à ce même micro, lui aussi, il y a quelques semaines, d'habitude, un bac plus 5, c'est embauché un peu plus de 30 000 euros par an. On était plus à 24, 25 000. Lui, il avait quelques premières données. J'imagine que vous aussi, vous en avez. Vous ne voulez pas les démoraliser, mais c'est la réalité.
Non, c'est 32 000 la moyenne avant la crise. Et clairement, je pense que la moyenne sera en dessous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça monte quand il y a des périodes de tension. Le chiffre que je vous ai donné sur 2019. Ce qu'on dit, nous, aux jeunes qu'on le reçoit dans les ateliers, c'est ne vous fiez pas au salaire d'embauche de la promo qui vous a précédé un an avant, parce que ça, ça
parce
pue
qu'en fait,
la réalité
on a
du marché.
Tout s'est effacé. Donc si on vous comprend bien, Gilles Gâteau, si pour les jeunes là, qui cherchent un emploi, qui vont peut-être en trouver un, c'est ne vous fiez pas à vos diplômes, arrêtez de vous comparer au salaire, au premier salaire de vos promotions précédentes, parce que ça n'a plus rien à voir. Entre-temps, il y a la crise qui est passée par là. Et surtout, foncez, allez-y. C'est ça que vous leur dites ?
Absolument. Le pire risque aujourd'hui, c'est celui de l'attentisme. D'accord ?
Donc on ne reste pas à la maison en attendant qu'il y ait
un job qui correspond
exactement à mon CV. Non, il faut y aller là.
Non, pas d'attentisme, parce que le marché, il n'est pas à l'arrêt. Il y a des embauches, il y a des opportunités. Alors, elles ne sont peut-être pas dans le job qu'on avait complètement rêvé, comme on l'avait rêvé. Mais ce n'est pas si grave parce qu'on entre dans une vie professionnelle aujourd'hui qui est une aventure de mobilité.
Oui, ce que vous dites, le plus important, c'est d'y aller. Et c'est peut-être important d'y aller vite parce que la nouvelle promotion qui est là en train de se former, elle arrive bientôt sur le marché du travail.
Dans
on risque
mois,
d'avoir
hein.
un goulot d'étranglement en septembre, non ?
Il peut y avoir une forme d'embouteillage quelque part. Donc c'est sûr que c'est le moment aujourd'hui de...
En gros, prenez le job qui est maintenant parce que les masters actuels, ils vont peut-être le prendre en septembre. C'est ça, en gros.
Après, ça ne veut pas dire prendre n'importe quel
job. Mais évidemment.
Bien sûr qu'on a des envies, des valeurs. Voilà. Mais de se montrer ouvert. L'autre jour, on était, le Premier ministre venait visiter un centre APEC à Bordeaux, participer à un de ses ateliers, questionner des jeunes. Il y en avait un, il s'était préparé pour être ingénieur dans l'aéronautique. Hein, il voulait bosser chez Airbus. Bon, il s'est reconverti, il entre dans l'armée comme officier navigant, il va voler, mais c'est pas dans le
façon.
Civil, voilà. Bon,
c'est
une forme d'adaptation,
après.
Mais peut-être que après une période d'engagement, il reviendra bosser dans l'aéronautique quand ça ira mieux.
C'est passionnant, Gilles Gâteau, vous restez avec nous jusqu'à 14h, vous êtes le directeur général de l'Association pour l'emploi des cadres, vous allez mettre maintenant une petite casquette de coach, parce qu'on va vous demander votre avis sur un projet d'entreprise.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Émission spéciale soutien aux jeunes. Et on va faire ça chaque premier mercredi du mois dans la France. On vous l'avait promis, nous on tient nos promesses.
Toujours.
Ici avec Elisabeth. Et parmi nos promesses, justement, chaque jour, un trophée Europe 1, la France bouge. Ça aussi, ils sont où elles sont au rendez-vous pour tenter de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant Nathalie Carré, notre partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie. Ah, ça, je suis sûr qu'elle est déjà en train de rire derrière son micro et devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour, en l'occurrence aujourd'hui, Gilles Gâteau, qui est le directeur général de l'Association pour l'emploi des cadres, que vous connaissez peut-être mieux sous le mot APEC.
Alors, on est toujours hyper surpris quand on reçoit des candidatures à la France Bouge, parce que là, aujourd'hui, on a une plateforme. Elle est née il y a 15 jours. 15 jours, oui, parce que cette crise, elle donne des idées à chacune et chacun d'entre vous. On assiste à des changements de comportement, et c'est de là d'ailleurs qu'est née votre idée. Marion Dolisi-Galzi, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous avez 49 ans, vous êtes lyonnaise et vous êtes la cofondatrice de Incaba. pour un étudiant. Il s'agit d'une plateforme solidaire qui met en relation les étudiants en difficulté et les familles qui sont prêtes à leur tendre la main. Vous allez nous présenter un cabas pour un étudiant. C'est parti pour votre pitch. Vous avez une minute.
Merci, exactement. Oui, nous avons, vous avez bien résumé, avec mon amie Anne Buatier, donc à Lyon. On est très nombreux à avoir été, à être toujours très bouleversés par la situation des étudiants, leur immense isolement d'abord, et puis pour beaucoup des difficultés financières parce que leurs petits jobs ont disparu, pour certains leurs alternances. Et puis un jour, on voit avec Anne une étudiante qui calcule ses courses au centime près sur son smartphone, au supermarché, elle a une boîte de sucre à la main, et on se dit qu'on aurait pu potentiellement lui offrir ses courses ce jour-là. Et on se dit surtout que dans nos quartiers autour de nous, il doit y en avoir plein d'autres comme ça, et qu'on est nombreux à vouloir les aider, ces jeunes, et à leur tendre la main, comme vous le disiez très bien. Mais comment les identifier, comment les trouver? Alors on s'est dit qu'on allait utiliser la puissance du digital pour pouvoir les mettre en lien et les connecter. Et donc, bah, tout simplement, on va sur uncabaspourunetudiant.fr avec le chiffre 1 à chaque fois. Et puis, les familles qui veulent être parrains remplissent leur formulaire. Les étudiants qui ont besoin d'aide et qui souhaitent rejoindre cette initiative remplissent le formulaire. Et on les met en contact en fonction de leur code postal. Le parrain s'engage à offrir régulièrement des courses à l'étudiant, mais surtout et avant tout à créer du lien.
Moi,
et
d'habitude,
ça, c'est essentiel.
Je suis le bad cop, mais là, vu que c'est une émission spéciale, je voulais absolument vous laisser terminer pour qu'on comprenne bien, surtout qu'en ce moment, et ça peut paraître paradoxal, vous avez plus de parrains que de filleuls, donc il faut vraiment réussir à toucher. Si là, des jeunes sont en train de nous écouter et ont besoin, vous avez de quoi les aider et vous pouvez comme ça servir encore plus de repas que ce que vous faites aujourd'hui.
Alors, j'ai envie de vous dire heureusement, j'espère qu'on aura toujours plus de parrains que de filleuls en fait. Hein.
C'est quoi vos critères pour les aider? C'est l'étudiant qui appelle et qui dit voilà, j'ai besoin de faire un plein de courses pour ce mois-ci. Est-ce que vous avez un cahier des charges? Comment vous vous êtes organisé?
Non, tous les étudiants qui ont besoin et qui connaissent l'initiative, et c'est l'un de nos challenges, d'ailleurs leur faire connaître à eux, s'inscrivent sur le site, ils remplissent le formulaire avec leurs coordonnées.
Et dans le formulaire, il y a quoi? Il y a des critères un peu de,
La carte d'étudiant ou le certificat.
Il n'y a rien, d'accord.
La carte d'étudiant
et aujourd'hui, vous êtes majoritairement sur Lyon, mais c'est tout l'intérêt de passer là à l'antenne d'Europe 1. Ça peut se dupliquer partout en France, puisque tant qu'il y a un parrain, il y a un filleul qui peut être aidé. On espère que grâce à Europe 1, on va essayer de relayer ça au maximum, ça pourra derrière se déployer sur toute la France.
On va vous présenter Nathalie Carré, si vous le voulez bien. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Marion, bonjour Emmanuel.
Bonjour Nathalie. Bonjour.
Nathalie est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Elle étudie, elle épluche chaque jour vos candidatures. Elle a retenu avec nous votre plateforme, un cabas pour un étudiant. Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses, s'il y en a des faiblesses?
Oui, alors déjà, le projet est très récent, donc quand même beaucoup de points positifs. Déjà, malheureusement, ça répond à un vrai besoin. 2,7 millions d'étudiants en France et environ 40% qui travaillent pour payer leurs études. Et donc, avec beaucoup d'entre eux qui ont dû arrêter. La simplicité de leur formulaire pour demander. Il n'y a aucun frein technique, du coup, pour aider ou être aidé. Et puis surtout, vous l'avez dit, la rencontre qui est générée par la remise du cabas, puisque effectivement, au-delà du soutien, entre guillemets, technique, votre méthode permet un soutien psychologique. Alors, point amélioré, en fait, il y a une vraie psychologie de donner, de recevoir. Il y a des études académiques sur comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, ce que vous avez mis en place peut bloquer, alors a priori pas les parrains, mais peut-être effectivement les étudiants. Il faudrait peut-être éventuellement penser à une charte qui donne mieux les règles du jeu, parce que les dons, en fait, ils peuvent être culturels, relationnels, alimentaires, mais tout ça est au choix du parrain et c'est une discussion. Puis peut-être fixer des délais d'engagement, parce que c'est plus facile de dire « bon allez, j'ai plus envie de le faire, mais j'attends la fin des 3 mois, par exemple », que de dire à l'étudiant « j'ai plus envie, j'arrête ». Il y a des généreux donateurs en France, mais effectivement, les ressorts psychologiques, là, vous mettez les gens en situation réelle de donner face à face, pas juste de faire un virement. Et ça peut être bloquant, tant pour le donateur que pour le receveur. Il faut juste regarder un peu plus près.
Ah, c'est intéressant ce que nous dit Nathalie Carré, Marion Dolizy-Galzi, cette pudeur qu'il peut avoir de rencontrer
c'est très intéressant.
En réel la personne qui va nous apporter de l'aide.
Effectivement, on a identifié déjà ce frein. Alors, vous l'avez dit très justement tout à l'heure, ce n'est pas 15 jours, mais ça fait un peu moins de 4 semaines qu'on a créé ça. Donc tout ça est allé très 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 vite. On a identifié effectivement ce frein. La charte, merci beaucoup Nathalie pour cette analyse qui est très pertinente et avec des points qu'on a déjà effectivement identifiés et puis d'autres qu'on prendra en compte. Et on travaille beaucoup sur le discours parce qu'on rencontre en fait les étudiants. Comme on a besoin de faire arriver l'information jusqu'à eux, le meilleur moyen qu'on a trouvé aujourd'hui, l'un des meilleurs moyens, c'est beaucoup de se rendre sur place lors des distributions alimentaires. Et on a ressenti effectivement cette gêne et il y a une charte qui est prévue effectivement.
Ce qui est passionnant aussi dans ce que vous dites, finalement le CABA ça peut être le début parce que pourquoi pas partager ensemble le CABA, préparer à manger ensemble un soir, et ça peut comme ça faciliter le fait de dire on vient pas juste chercher notre sac, on vient aussi chercher une rencontre parce qu'on sait qu'on a aussi beaucoup de jeunes, mais même les personnes qui donnent, qui doivent se sentir potentiellement en isolement en ce moment.
Il nourrit tout le monde ce CABA, vous avez tout à fait raison, et effectivement on a beaucoup de témoignages tous les jours.
Il y a une rencontre qui vous a marqué avec un jeune?
Alors il y a une jeune fille qui il y a pas très longtemps qui était en école de communication qui nous a dit moi j'ai pas à manger de fruits et légumes depuis 6 mois, fruits et légumes frais depuis 6 mois. Mes deux parents sont pas sur Lyon et ils ont perdu leur emploi pendant la crise. Donc merci. On a tous les jours des témoignages de parrains et de filleuls qui nous disent merci de cette rencontre. Dimanche prochain, Inès vient déjeuner à la maison. Elle va donner en extra job des cours à ma fille d'économie. Merci de voir les yeux qui brillent. Et cette initiative, dans ce CABA, il n'y a pas que de la nourriture, il y a beaucoup du lien et de la chaleur. Et ça nourrit les deux parties, les parrains et les filleuls.
Gilles Gâteau, vous êtes le patron de l'APEC. C'est super comme expérience.
C'est magnifique.
C'est beau.
Vous pourriez soutenir et relayer, vous aussi, sur votre site, là?
Absolument. Et dans les jeunes que l'on accueille dans les ateliers, il y en a qui sont dans des situations de grande précarité économique. Alors, il y a un dispositif gouvernemental vers lequel on les oriente, on explique. Il n'est pas super simple, mais il peut dépanner des jeunes.
Oui, on rappelle, un repas à 1 euro, notamment dans les Crous.
De proximité. Je pensais à Georges Brassas et à l'Auvergnat. Effectivement, ce n'est pas seulement un peu de pain. C'est beaucoup plus que ça, en fait, qui passe à travers ce dispositif et à travers cette initiative.
Ça s'appelle Un CABA pour un étudiant. On le retrouve sur les réseaux sociaux, c'est ça, sur Instagram, j'imagine?
Exactement.
Et ben voilà, sur Instagram, Un CABA pour un étudiant. Merci à vous Marion Dolizy Galzi d'être venue nous en parler.
Merci à Nathalie Carré qu'on retrouve également demain. Si vous aussi vous voulez candidater pour présenter votre projet, une adresse mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Allez, suite et fin de notre émission. Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. Vous restez encore un petit peu avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et c'est déjà la dernière partie de votre émission et nous sommes toujours avec Gilles Gâteau, le directeur général de l'Association pour l'emploi des cadres.
On a lancé cette opération le 20 janvier avec cette habitude de demander à notre patronne ou notre patron du jour s'il avait des offres d'emploi. Nous étions loin d'imaginer le nombre de postes à pourvoir.
Nous recrutons environ 1000 personnes avec ou sans expérience.
On a plus de 600 postes à pourvoir.
On va embaucher 15 000 personnes en CDI.
Tous les jeunes peuvent déjà aller sur notre site.
1000 CDI offerts, plus les alternants.
On cherche sur toute la France 3000 nouveaux collaborateurs dans notre organisation.
Bonjour Dora Nana.
Bonjour Elisabeth.
Mais quel succès cette opération!
Eh bien oui, comme on l'entend dans ce son, de grands groupes comme Orpi, Daniel Moquet, Adeco, l'École supérieure de la banque, Veolia, Lidl et j'en passe, sont passés par la France Bouge et nous ont fait part de leur offre d'emploi, de stage ou d'apprentissage en direction des jeunes.
Et alors Dora, ça nous fait combien d'offres au total pour les jeunes au moment où nous parlons?
Eh bien on a totalisé depuis quasiment un mois et demi, le début de l'opération, 29 000 offres que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site europe1.fr via une carte interactive. C'est une page sur laquelle d'ailleurs les employeurs qui nous écoutent peuvent poster, rentrer eux-mêmes leur offre d'emploi via un formulaire qui est prévu justement à cet effet.
Oui, une carte par région. Dora, dans quel secteur, quels sont les profils recherchés?
Eh bien, on s'aperçoit que les besoins sont très variés. On l'a vu au fur et à mesure qu'on a reçu du monde dans cette émission. Ça va des métiers de la digitalisation. On sait par exemple que la société MC2I recrute plus de 200 jeunes diplômés, dont la majorité en CDI. Chez Veolia, Eux, les postes sont très variés, 900 CDI proposés pour des mécaniciens, des analystes. Ils vont même d'ailleurs jusqu'à former les intéressés. Chez Kaufmann & Broad, qu'on a reçu également, ils recrutent des alternants. Pas de formation particulière nécessaire. 80 postes par an quand même sur 2021, dans les secteurs de la vente, la programmation technique par exemple. Et on l'a vu aussi chez Mano Mano, ils recherchent aussi des alternants, vous vous souvenez ?
Oui, vendredi
30
dernier.
Alternants, voilà, dans le marketing, dans les ressources humaines.
Alors dans quelle région pouvons-nous trouver ces offres d'emploi, donc ces jobs ?
Eh bien, on s'aperçoit que c'est un peu partout en France. Et en plus, nouveauté, avec le télétravail qui se développe, ça offre de nouvelles opportunités. Et on a reçu la patronne de Minty qui nous expliquait, elle nous a raconté qu'il propose une vingtaine de CDI dans les métiers de la technologie et donc en télétravail, des offres ouvertes aux personnes en région. Donc.
Merci beaucoup Doran Hanin. Et je vous rappelle cette carte interactive qu'on peut retrouver sur le site d'Europe1.fr où comme ça vous pouvez voir tout ce qui est proposé. Du côté de la PEC, on recrute aussi puisqu'on a vu que Pôle emploi avait beaucoup recruté. Est-ce que vous aussi, Gilles Gâteau, vous en avez besoin à la PEC ?
Alors, on n'est pas très gros, donc on recrute un peu et on a recruté une trentaine de CDD pour renforcer les équipes sur ce plan à l'attention des jeunes
donc
diplômés.
Donc les besoins sont pourvus.
Pour les ateliers, voilà, pour l'instant, oui. Mais on a effectivement embauché des renforts supplémentaires pour les jeunes.
Merci à vous Gilles Gâteau. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Merci d'être venu dans La France Bouge aujourd'hui. Emmanuel Duteil, on se retrouve demain. Mais nous, on va aller dans le Salon des agriculteurs. C'est opération Europe 1.
Opération Europe 1 depuis le début de la semaine. Et nous aussi à La France Bouge, on va y aller. On va aller dans la ferme de AgroParisTech. C'est vraiment l'école qui forme les agriculteurs de demain. On va voir à quoi va ressembler cette agriculture connectée demain. Et on sera en direct comme ça de la banlieue parisienne demain avec toute l'équipe de La France Bouge.
En attendant, restez sur Europe 1. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.
C'était La France Bouge avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.